VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du mardi 31 juillet 2018. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Zimbabwe, le dépouillement du scrutin présidentiel d'hier se poursuit.
Au Mali, le président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, et son principal rival, Soumaïla Cissé, se disent en tête après la présidentielle de dimanche.
République démocratique du Congo, Moïse Katumbi, candidat à la présidentielle de décembre, veut rentrer d'exil le 3 août.
Le président américain Donald Trump est ouvert à une rencontre avec les dirigeants iraniens sans condition préalable.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Au Zimbabwe, les opérations de dépouillement des bulletins de vote ont commencé hier soir après la tenue de la première élection présidentielle démocratique dans le pays depuis la mise à l'écart de l'ancien président Robert Mugabe. Le point avec Raissa Girondin.
Pour la première fois depuis 16 ans, des observateurs occidentaux, notamment de l'Union européenne et du Commonwealth, ont été invités à surveiller le bon déroulement du scrutin dans tout le pays, aux côtés d'observateurs de l'Union africaine. Une élection juste et honnête est l'un des paramètres nécessaires pour envisager une levée des sanctions qui pèsent sur l'économie du Zimbabwe et pour convaincre les investisseurs au moment où le pays souffre d'un manque chronique de liquidité. Nelson Chamisa, qui incarne avec son mouvement pour un changement démocratique un espoir de sortie du système en place, a estimé que la Commission électorale nationale ralentissait les opérations de vote dans les zones urbaines où il peut espérer réussir de bons résultats, mais sans preuve à l'appui. La volonté populaire est niée et limitée en raison de ces retards délibérés et inutiles, a-t-il écrit dans un commentaire sur Twitter. Des observateurs internationaux ont reconnu que les procédures de vote étaient lentes dans certains bureaux, mais que cela ne semblait pas intentionnel. Les résultats sont attendus d'ici samedi, et si aucun candidat n'obtient la majorité absolue, un second tour sera organisé le 8 septembre.
Au Mali, la classe politique a salué hier la tenue du premier tour de l'élection présidentielle. Pourtant perturbé par des attaques, le camp du président sortant l'annonçant largement en tête et celui de son principal rival pronostiquant un second tour entre les deux hommes. Les électeurs de ce vaste pays d'Afrique de l'Ouest étaient appelés à choisir entre le président Ibrahim Boubacar Keïta, 73 ans, et ses 23 concurrents, dont le chef de l'opposition Soumaïla Cissé, 68 ans. Les premiers résultats ne sont pas attendus, disait-on hier, avant ce mardi ou mercredi. Les résultats officiels provisoires devant être proclamés d'ici vendredi avant un éventuel second tour, le 12 août.
Au Burkina Faso, l'Assemblée nationale a adopté hier un nouveau code électoral contesté par l'opposition qui craint un recul démocratique pour le vote des 11 millions de Burkinabés de l'étranger. Ce nouveau code électoral, voté par les députés de la majorité, consacre la carte nationale d'identité et le passeport comme les seules pièces servant à l'inscription sur les listes électorales et au vote, mais exclut l'usage de la carte consulaire dont dispose, selon l'opposition, la majorité des Burkinabés de l'étranger.
L'opposant congolais en exil, Moïse Katumbi, a officiellement demandé l'autorisation de rentrer le 3 août en République démocratique du Congo, où M. Katumbi compte déposer avant la date butoir du 8 août sa candidature à l'élection présidentielle prévue le 23 décembre. Éric Manirakiza.
L'ex-gouverneur du Katanga a saisi la direction de l'autorité de l'aviation civile congolaise pour lui permettre d'atterrir en jet privé vendredi 3 août à l'aéroport de Lubumbashi dans le sud-est de la RDC. Tous les candidats à l'élection présidentielle doivent déposer leur dossier de candidature au plus tard le 8 août. Monsieur Katumbi, qui se trouve actuellement à Johannesburg en Afrique du Sud, ne pourra pas le faire de l'étranger. Il a indiqué qu'il est prêt à passer par voie terrestre via la Zambie si sa demande était refusée. Moïse Katumbi a été condamné à 3 ans de prison dans une affaire de spoliation immobilière. Il est également poursuivi pour recrutement de mercenaires et la Cour suprême a renvoyé le procès au 10 octobre. Ancien bras droit du président Joseph Kabila, M. Katumbi est passé à l'opposition en 2015.
De son côté, l'ex-chef de guerre, Jean-Pierre Bemba, a annoncé son retour pour demain à Kinshasa en provenance de Bruxelles et non plus dès mardi dans son fief de Genema dans le nord et ouest. Son parti, le MLC, a indiqué hier que le gouvernement n'a pas pu accorder l'autorisation d'atterrissage du vol directement à Genema. Monsieur Bemba veut aussi présenter sa candidature avant le 8 août.
À peine libérée de sa 9e épidémie de fièvre hémorragique Ebola, la République démocratique du Congo fait face, dans l'est du pays, à une fièvre en cours d'analyse, rapporte des sources sanitaires, dont un médecin qui parle de 15 morts. Dans un communiqué lundi soir, le ministère de la Santé évoque 25 cas de fièvre dans la région de Beni, dans le Nord Kivu, sans évoquer de décès. Des échantillons ont été prélevés et sont en cours d'envoi vers Kinshasa pour être analysés par l'Institut national de recherche biomédicale, précise le ministère dans son communiqué.
L'Union européenne a décidé hier de prolonger pour 2 ans sa mission militaire de formation en République centrafricaine. EUTM-RCA est étendue jusqu'au 19 septembre 2020 de Bangui. Pour VOA Afrique, Freeman Sipila.
En plus de cette prolongation, le Conseil de l'Union européenne a également modifié le mandat de la mission. Son domaine d'intervention s'étend désormais sur plusieurs volets. EUTM-RCA peut donner des conseils stratégiques non seulement au ministère de la Défense, au personnel militaire et aux forces armées centrafricaines, mais aussi au cabinet du président de la République. Cette collaboration devra se faire aussi sur la coopération entre civils et militaires, y compris au ministère de l'Intérieur. Le Conseil a débloquer une enveloppe d'environ 25,4 millions d'euros pour les coûts de UTM-RCA qui est basée à Bangui pour la période du 20 septembre 2018 au 19 septembre 2020. Cette mission d'entraînement et de formation de l'armée centrafricaine a été lancée le 16 juillet 2016. Elle compte environ 170 personnes. Au terme de son premier mandat de 2 ans, l'UTM a formé et entraîné plus de 3000 soldats centrafricains. Cette décision intervient au moment où plusieurs régions du nord du pays échappe au contrôle de Bangui, car morcelé par des groupes armés qui y pillent les ressources naturelles. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
5 soldats égyptiens retenus en otage en Libye ont été libérés hier au cours d'une opération conjointe des services de renseignement soudanais et égyptiens qui ont déclaré des responsables des services de sécurité dans les deux pays. Les soldats avaient été capturés le long de la frontière égypto-libyenne et détenus dans le nord de la Libye, a indiqué une des sources soudanaises. L'armée égyptienne a affirmé qu'ils faisaient partie d'une patrouille portée disparue.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Rencontre à la Maison-Blanche hier entre le président Donald Trump et le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte. Il a beaucoup été question de politique étrangère, notamment de la Russie et de l'Iran. Nicolas Pineau nous en dit plus.
Très offensif face à la presse, le président Trump a déclaré que les sanctions américaines contre la Russie seraient maintenues dans l'État. De son côté, Giuseppe Conte s'est dit favorable à des discussions avec la Russie. Sur l'Iran, le président américain s'est dit ouvert à une rencontre avec les dirigeants iraniens quand ils veulent, sans conditions préalables. Une main tendue qui tranche avec les déclarations belliqueuses de Washington et Téhéran la semaine dernière, où par déclaration interposée, Hassan Rouhani et Donald Trump se mettaient chacun en garde contre toute provocation. Sur le plan intérieur, Donald Trump a réitéré sa menace de laisser le gouvernement fédéral fermé s'il n'obtenait pas les fonds pour la construction d'un mur de sécurité à la frontière mexicaine. Le temps presse pour les républicains qui contrôlent la Chambre des représentants et le Sénat, mais qui pourraient perdre l'une des 2 chambres du Congrès suite aux élections de mi-mandat en novembre prochain.
L'Iran a réagi à l'offre de pourparlers du président Trump en soulignant que le chemin menant à des discussions directes avec Washington devra inclure le retour des États-Unis à l'accord sur le nucléaire iranien dont s'est retiré officiellement M. Trump, le respect des droits nationaux de l'Iran et la réduction des hostilités, pour citer un conseiller du président iranien Hassan Rouhani.
Le Washington Post signale que les agences de renseignement américaines voient des indications selon lesquelles la Corée du Nord serait en train de construire de nouveaux missiles dans un grand complexe de recherche à Sanumdang. Selon le grand quotidien américain, citant des sources ayant requis l'anonymat, il s'agirait de missiles intercontinentaux à carburant liquide construits dans la même usine où a été fabriqué le premier missile capable d'atteindre la côte est des États-Unis. Il y a quelques jours, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo avait reconnu lors d'audiences publiques au Congrès que Pyongyang continuait à produire des matériaux nucléaires 6 semaines après un sommet historique entre Donald Trump et Kim Jong-un.
L'organisation État islamique a revendiqué hier l'assassinat de 4 touristes occidentaux, 2 Américains, 1 Suisse et 1 Néerlandais. Ils ont été fauchés par une voiture et attaqués par des hommes armés dans une région reculée du Tadjikistan, petit pays d'Asie centrale. L'attaque s'est produite dimanche dans la région de Dangara, à 150 km au sud de la capitale Dushanbe. Un groupe de 7 cyclotouristes étrangers, dont un Français, a été renversé par une automobile dont le conducteur a ensuite pris la fuite.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nicolas Pinault.
La République du Congo réapparaît dans l'agenda du Conseil d'administration du Fonds monétaire international. C'est finalement ce vendredi que sera examinée la situation du pays et éventuellement voté un soutien financier. Cette aide du FMI est très attendue au Congo, dont la dette s'élève à 9,5 milliards de dollars, alors que le pays peine à mobiliser les recettes publiques prévues par son budget 2018. La dernière mission du FMI à Brazzaville en avril avait conditionné son soutien à des réformes audacieuses et immédiates. Et de l'autre côté du fleuve Congo, la RDC tente à son tour d'interdire les sacs plastiques à usage unique dans les supermarchés. Les marchandises sont désormais servies dans des sacs en synthétique réutilisables ou des sacs biodégradables. Cette mesure risque d'être sans conséquence cependant pour la majorité des 60 à 80 millions de Congolais qui ne fréquentent pas les supermarchés mais plutôt les marchés populaires. On reparle du FMI qui maintient à 1,5% la prévision de croissance économique de l'Afrique du Sud pour 2018. Le FMI prévient cependant que l'économie sud-africaine doit faire face à la hausse rapide de la dette publique et le renflouement des entreprises d'État. Enfin, la grève d'une partie des pilotes de la compagnie Royal Air Maroc se poursuivait hier, provoquant l'annulation d'une dizaine de vols. Une partie des pilotes a entamé une grève le 20 juillet dernier pour protester contre leurs conditions de travail. Ils exigent une revalorisation salariale. La RAM perdrait ainsi 20 millions de dirhams par jour.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Ben Zarti devrait 50 000 dollars au WAC.
En poste au Wydad Casablanca, Fawzi Ben Zarti a été nommé sélectionneur de la Tunisie. Le président du WAC, Saïd Nasri, a expliqué que le technicien devra verser une pénalité de 50 000 dollars, soit 2 mois de salaire, en contrepartie au club marocain. Cette disposition est contenue dans son contrat.
Libéré Bakary Koné signe en Turquie.
Oui, prêté la saison dernière à Strasbourg, l'international burkinabé a résilié son contrat avec Malaga la semaine dernière à la suite de la relégation du club andalou. Libre, le défenseur central de 30 ans n'a pas tardé à rebondir. Promu en première division turque, Ankara Gusi a annoncé hier la signature de Bakary Koné.
Ibrahimovic renonce à l'All-Star Game.
L'attaquant suédois des Los Angeles Galaxy, 36 ans, a renoncé au All-Star Game de la MLS face à la Juventus Turin demain à Atlanta. Auteur d'un triplé contre Orlando dimanche, Zlatan Ibrahimovic, qui a déjà inscrit 15 buts en 17 matchs cette saison, aurait disputé sa 3e rencontre en une semaine s'il avait participé à ce match.
Le nouvel entraîneur du PSG veut garder Cavani.
Thomas Tuchel a affirmé qu'il n'était pas question qu'Edinson Cavani quitte le PSG en réponse à des informations de presse espagnoles faisant état de l'intérêt du Real Madrid pour le buteur uruguayen. Selon certains médias espagnols, le Real Madrid voudrait faire d'Edinson Cavani, 31 ans, ans, le remplaçant de Cristiano Ronaldo qui vient de rejoindre la Juventus Turin.
La pub confession de Neymar moquée au Brésil.
Tout à fait, l'attaquant vedette a été une nouvelle fois taclé par les médias et l'opinion publique au Brésil à cause d'une publicité dans laquelle il admet ses exagérations et se présente comme un homme nouveau. Dans un éditorial publié hier dans sa version en ligne, le quotidien O Globo considère que le joueur de 26 ans s'est tiré une nouvelle fois une balle dans le pied avec cette vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Dans la publicité, le joueur le plus cher de l'histoire dit se livrer à cœur ouvert deux semaines après l'élimination du Brésil en quart de finale du Mondial 2018.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Les Zimbabwéens se sont déplacés en nombre et dans le calme lundi lors des premières élections générales depuis la chute du président Robert Mugabe en novembre après 37 ans au pouvoir. Un nombre record de 23 candidats dont le président sortant Emmerson Mnangagwa et le leader de l'opposition Nelson Chamisa étaient en lice pour la présidentielle organisée en même temps que les législatives et les municipales. Pour une analyse, Timothée Donangmai a joint le professeur David Zunmenu Dosu de l'Institut d'études de sécurité de Pretoria en Afrique du Sud.
Ce scrutin marque un tournant décisif dans l'histoire politique du Zimbabwe par rapport aux turbulences que ce pays avait connues sous le règne de Robert Mugabe. Mais c'est aussi un processus électoral qui va conférer la légitimité au successeur de Mugabe, que celui-ci soit de l'ancien parti au pouvoir ZANU-PF ou bien de l'alliance de l'opposition dirigée par le mouvement pour le changement démocratique. C'est une étape très importante dans la normalisation de la vie politique du Zimbabwe après le départ précipité et organisé de Robert Mugabe.
Robert Mugabe qui a dit qu'il ne votera pas pour les dirigeants actuels, quel est son poids politique?
Robert Mugabe demeure un acteur très important sur la scène politique au Zimbabwe. C'est aussi une incarnation de la libération nationale du pays. Mais je pense que sa sortie médiatique a quelque chose de vengeance et est venu un peu tard dans ce processus électoral. Certainement qu'il s'attendait à quelque chose. Va-t-il être suivi par les caciques ou certains fidèles du régime? Certainement. Vont-ils faire le poids et faire basculer les résultats au profit de l'opposition? On n'est pas très sûr. Ce qui est certain, c'est que le Zimbabwe est engagé dans un processus irréversible. Et sauf erreur ou sauf dépatouillage, le pays pourrait avoir un président issu des urnes dans un processus qui peut être qualifié de crédible ou entaché d'irrégularité, ce qui replongerait le Zimbabwe dans une crise politique permanente.
Qu'en est-il des anciens combattants de la lutte de libération qui avaient rompu avec Mugabe peu avant son départ du pouvoir?
Je pense que tous ces anciens combattants se sont aujourd'hui alignés derrière Emmerson Mnangagwa, celui qui incarne le renouveau de ZANU-PF pour le parti de Robert Mugabe. Et ce sont ces gens qui maintenant essayent de redorer le blason du parti, de coopérer avec lui. Évidemment, certains ont essayé des actions pour empêcher le processus d'aller jusqu'au bout avec les attentats il y a quelques mois contre le président Emmerson Mnangagwa. Mais également, il y a certains observateurs qui estiment que ces attentats ont été organisés à l'intérieur du parti pour accroître la visibilité ou la sympathie des populations à l'égard de Mnangagwa. Mais l'opposition aussi appuie ses armes et se dit le discours sur l'allégeance aux héros de libération est fini et atteint. Il faut que le Zimbabwe tourne la page et permette aux nouvelles forces politiques de proposer de nouvelles idées pour sortir le pays de la misère.
C'était le professeur David Zunmenu Dosu de l'Institut d'études de sécurité de Pretoria.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Mali, le dépouillement des bulletins de vote se poursuit après le premier tour dimanche de l'élection présidentielle. Les observateurs déplorent les différents incidents qui sont produits et aussi ce qu'ils appellent des dysfonctionnements et insuffisances. 8 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes de Bamako, compte rendu de notre envoyé spécial Jacques Aristide.
Les Maliens sont donc dans l'attente alors que se poursuit le décompte des voix. Les militants des candidats à la présidentielle, comme ici au QG de campagne du président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, sont eux aussi impatients. La confiance est toutefois de mise. Kansutu Sidibé est membre de l'équipe de campagne.
Oh que oui, je suis confiante. Parce que j'ai confiance en mon président et je sais ce qu'il vaut et ce qu'il a fait dans le pays. Et pour moi, c'est ça le plus important. Et les Maliens savent, avec tous ceux qui sont allés dire en Europe, dire que le président ne travaille pas, j'ai confiance en Ibeka. Et je sais que les Maliens aussi, ils ont confiance en cet homme.
À deux pas d'ici, même ambiance, bon enfant, les militants et partisans du candidat Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition, affichent la même confiance. Nuhum Togo est directeur de communication de l'équipe de campagne.
Vous avez la confiance que nous entoure, c'est la confiance du peuple malien, parce que le peuple aspire à un changement. Tant souhaité par le Malien lambda que veut une situation où aujourd'hui nous vivons dans des situations très difficiles en termes de sécurité, en termes de bien-être, en termes de l'école, en termes de la société, en termes de l'emploi. Tout le monde souhaite que ça change.
Le déroulement du scrutin a été perturbé dans un nombre important de bureaux de vote sur les 23 000 recensés. Et maintenant, les observateurs électoraux surveillent de près le dépouillement. Les membres du pool d'observation du Mali sont toujours à pied d'œuvre. Ibrahima Sango, président du POSIM.
Dans la nouvelle loi électorale, on a introduit une disposition majeure qui est le fait que l'ensemble des bulletins de vote et le procès-verbal de dépouillement des opérations électorales, des résultats, sont signés par l'assesseur de la majorité et l'assesseur de l'opposition. Bon, même si on a noté des choses, si on a des résultats, on ne pourra pas les communiquer parce que la loi électorale dit que l'administration territoriale doit publier les résultats provisoires et puis après la Cour constitue. Va publier les résultats définitifs. Donc nous, on a des tendances, on a des trucs, mais on n'est pas habilité à la communiquer.
Vous voyez donc des tendances. Va-t-on vers un second tour ?
On croit.
Les observateurs notent également que les électeurs ne se sont pas beaucoup mobilisés pour accomplir leur devoir civique. Les résultats sont attendus dans le courant de cette semaine avec l'éventualité d'un second tour le 12 août prochain. De Bamako au Mali, Jacques Aristide pour VOA Afrique.
Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bamako au Mali sur 102.0 FM.
L'Érythrée et la Somalie ont signé un accord portant sur l'établissement de relations diplomatiques après plus d'une décennie de tensions. Irénée Herman Ungbo a joint Roland Marshall du Centre de recherche internationale et spécialiste des questions de la Corne de l'Afrique. Selon lui, c'est une belle occasion pour ces pays de construire un nouvel ordre régional avec en toile de fond de grands défis à relever.
Une chose, ça va être pour ces États de retrouver leur marque. Une autre, ça va être de reconstruire un ordre régional qui soit réaliste et en même temps qui fasse un peu place aux égaux des uns et des autres.
Est-ce qu'on peut parler d'une nouvelle étape des bouleversements positifs que connaît la Corne de l'Afrique quand on sait que l'histoire récente de ces trois nations est entremêlée ?
Oui, l'histoire de ces trois nations est entremêlée. La Somalie a servi quand même dans des années de refuge aux dirigeants érythréens et tigréens, donc qui s'opposaient alors au régime à Addis Abeba, dans la deuxième moitié des années 70 et dans les années 80. Bon, après, c'est devenu plutôt l'inverse dans les années 90 à cause de la guerre civile en Somalie, et puis ensuite dans la division de la guerre civile entre ceux qui étaient soutenus par l'Éthiopie et ceux que mécaniquement l'Érythrée a soutenus. Donc cette période semble achevée, je dis bien semble. Si vous voulez, ce qui est important de comprendre, c'est que oui, d'un certain côté, cette période s'achève et on voit mal, elle ne pourra pas se prolonger sur les mêmes bases. Mais d'un autre côté, le nouvel ordre régional à construire, il reste encore à construire. Et donc il y a beaucoup de questions, d'interrogations sur la capacité des uns ou des autres à faire des compromis.
À vous entendre, c'est une nouvelle collaboration qui sera basée sur la prudence.
Il ne faut pas se cacher que le chemin va être difficile et le chemin va être long, sauf à vouloir faire de grandes déclarations qui, si vous voulez, auront beaucoup de problèmes à se matérialiser parce qu'il y a des problèmes à régler. Et en même temps, si ces problèmes ne sont pas réglés, on aura assez rapidement de nouveau des amertumes. Et puis ensuite, vraiment des acrimonies et puis peut-être des oppositions.
À quoi peut-on s'attendre alors dans ces conditions aujourd'hui concrètement ?
Il y a plusieurs tests qui méritent d'être attentifs. Le premier, c'est ce qui va se passer dans les élections éthiopiennes dans 2 ans. Si le Premier ministre est capable de mener la coalition pouvoir à une victoire, mais que ce ne soit pas une victoire totale, avec une voix laissée à l'opposition, bon, ça sera un énorme pas en avant. Et ensuite, dans la question régionale, ça va être assez rapidement, comment est-ce que l'Érythrée et l'Éthiopie arrivent à trouver des politiques économiques convergentes qui permettent à l'Érythrée de sortir d'une situation économique qui est quand même très grave.
C'était Roland Marshall du Centre de recherche international et il est spécialiste des questions de la Corne de l'Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Une conférence sur l'afrofuturisme s'est tenue récemment à Lomé au Togo. Il s'agissait de réfléchir sur l'avenir de l'Afrique dans divers domaines, notamment la question architecturale. Quel avenir pour les villes africaines ? La réponse dans ce reportage de notre correspondante à Lomé, Kayi Lawson.
L'Afrique calque son développement urbain sur des modèles occidentaux. Il est très rare de voir dans de grandes agglomérations africaines des bâtiments qui sont inspirés de l'architecture endogène du continent. Cet état de choses est dénoncé par l'architecte urbaniste Roland Akpedjekonu qui estime que l'Afrique doit redéfinir sa propre identité architecturale dans ce 21e siècle tout en ayant son patrimoine culturel comme axe central.
Dans les pratiques d'aménagement du territoire, nous devons appliquer les principes qui nous viennent de nos patrimoines, de notre identité. Donc la ville africaine du futur doit ressembler foncièrement à l'Afrique, c'est-à-dire puiser des matériaux qui servent à construire dans nos villages, qui servent à construire nos cases. C'est aussi utiliser les formes qui sont utilisées dans l'aménagement de notre cadre de vie par nos aïeux. C'est prendre en compte l'importance que nous avons toujours donnée à l'environnement, construire en matériaux locaux. On économise beaucoup. En termes de santé, on est en meilleure forme lorsqu'on vit, par exemple, dans une maison construite en terre. Parce que le ciment, il dégage du CO2 qui n'est pas bénéfique aux poumons.
Le ministre togolais de la Culture regrette que la colonisation et façonner la physionomie de l'Afrique. Il est temps d'avoir recours aux connaissances endogènes pour donner un nouveau visage au continent noir, pense Guy Madier Lorenzo.
L'Afrique n'a pas débuté au moment des indépendances. Nous avions des structures sociales, nous avions des empires, nous avions des cultures qui nous ont permis de pouvoir passer à travers les siècles. Si ce n'avait pas été la colonisation, je suis intimement persuadé que l'Afrique aurait un autre visage au jour d'aujourd'hui. Alors que nous prenions conscience que c'est à travers nos valeurs, nos traditions, nos cultures que nous pouvons puiser l'essentiel pour bâtir notre avenir.
L'idée selon laquelle vivre dans une maison construite en terre est synonyme de pauvreté doit être révolue. Kossi Assou, président de l'association Treka.
Il est question de revenir à nos fondamentaux, à nos connaissances endogènes, de les reparcourir parce que nous les regardons avec un regard méprisant. Il faut enlever ce mépris, revisiter nos connaissances endogènes pour les mettre au goût du jour, afin que ces connaissances nous aident à construire l'avenir, un avenir serein et digne.
Il faut reconnaître que dans la capitale togolaise, quelques initiatives sont prises ici et là pour construire des bâtiments en terre rouge avec des toits en paille améliorée et des décorations d'intérieur en bambou. Kayi Lawson, Lomé pour VOA Afrique.
Hello, hello, I'm your English host. Je suis votre présentatrice pour l'anglais, Michelle Joseph, ici au micro. Voulez-vous mieux parler l'anglais? C'est fait! Retrouvez-moi tous les soirs à partir de 21h, temps universel, sur VOA Afrique, et sur notre site internet à www.voaafrique.com, cliquez sur Apprenez l'anglais pour retrouver les leçons de tous les jours. Et les week-ends sur ondes courtes, le samedi et le dimanche à 20h TU. Pour mieux parler l'anglais, to speak better English, ne ratez pas English USA sur VOA Afrique.
Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, John Ellison. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.